dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et nous retrouvons chaque mois Jean-Jacques Ohana pour évoquer alors ce que l'IA peut nous apporter en matière de gestion de portefeuille et déjà de compréhension des marchés financiers. Jean-Jacques, bonjour.
Bonjour Grégoire.
Consultant indépendant, vous êtes membre du board de la FinTech EA et For Alpha. Alors, hyper intéressant, vous allez me raconter ce que vous avez fait parce que vous venez avec deux portefeuilles modèles américains, européens sur les actions, des portefeuilles anti-inflation, c'est ça, enfin qui protègent de l'inflation parce que c'est un thème. Alors, on en discutait avec les invités précédemment, c'est vrai que là, depuis quelques données américaines, j'allais dire, le marché est moins obnubilé par le risque de surchauffe exagérée de l'inflation, notamment aux États-Unis. Néanmoins, ce thème de l'inflation qu'on a découvert ou redécouvert ces dernières années, pour beaucoup, c'est un thème qui est installé pour longtemps encore, Jean-Jacques.
À mon sens, c'est bien possible. Évidemment, il y a toujours une incertitude. Et finalement, quand on regarde les faits, ça fait depuis 2022 qu'on dit que l'inflation va revenir. Alors, elle récède un peu parce qu'on a, c'est vrai qu'on a connu des inflations.
On est allé à 10, hein.
On est allé à 10. Donc maintenant, on est à 3,4 en réalisé. Je regarde l'inflation, le CPI de base. Et aujourd'hui, l'inflation anticipée, elle reste ancrée. Puisqu'en fait, on est à 2,3, 2,6 sur le 5 ans dans 5 ans, donc le long terme, 2,3 dans 10 ans. Donc c'est des niveaux relativement faibles, légèrement au-dessus de 2, mais il n'y a pas tellement d'inquiétude sur l'anticipation. Après, le réalisé étant à 3,4 encore, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que plus ça dure, plus cet écart dure, plus finalement, quand vous êtes un investisseur, vous achetez les obligations indexées sur l'inflation sur un anticipé à 2,4 et vous réalisez un point au-dessus. Et donc, vous avez un portage à détenir des obligations indexées sur l'inflation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça fait finalement depuis 2021, parce qu'au début, c'était l'augmentation des points morts d'inflation, ce qu'on appelle les break-even, les points morts, donc l'anticipation. Et désormais, ce qui rapporte, c'est le portage.
Ouais.
Donc ça s'est transformé en un instrument de portage. Et aujourd'hui, les détenteurs d'obligations indexées sur l'inflation bénéficient de ce portage et donc gagnent. Mmh. Donc déjà, de ce point de vue-là, il y a plusieurs perspectives. Hein. De ce point de vue-là, l'inflation, finalement, ça marche assez bien. Ensuite, il y a un autre point de vue, c'est de regarder la dynamique court terme. Et là, il se passe quelque chose quand même sur les matières premières. On en parlait la dernière fois.
Ce
n'est pas sur toutes les matières premières. Ce n'est pas encore généralisé. Il n'y a pas le pétrole. Il n'y a pas les marchés agricoles. Cependant, quand on regarde les meilleurs performeurs depuis 3 mois, il se passe quelque chose. C'est que, un, le cuivre, 30%. Ce n'est pas souvent que le cuivre est le meilleur.
Il y a même un squeeze, quoi.
Dans le monde.
Bien sûr.
C'est le meilleur actif dans le monde.
Ouais.
Deux, l'or, 16,5%. C'est toujours la même thématique, mais sauf que l'or, c'est un peu plus ancien, ça vient d'avant le cuivre, c'est plus calme, c'est plus construit, mais c'est la même thématique. On en avait parlé, la thématique du débasement monétaire. On pourrait rajouter le bitcoin qui était avant et qui est décalé, mais c'est peut-être, de mon point de vue, un peu la même thématique. Et puis, trois, ce qui est assez intéressant aussi, le FTSE, le marché anglais, plus 12,5% depuis 3 mois. Alors, ce n'est pas le meilleur performeur récent depuis un mois, parce qu'en fait, il y a eu du rattrapage. Mais depuis 3 mois, c'est le meilleur performeur. Et ce n'est pas anodin, parce qu'en fait, c'est un marché qui est assez concentré en actions producteurs de matières premières, des pétrolières, aussi des ressources de base, beaucoup.
Beaucoup, toutes les grandes valeurs minières
elles sont cotées à Londres. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même assez intéressant qu'on ait cette hiérarchie. Et puis, quand on va dans les secteurs, on tombe sur des choses intéressantes aussi. Meilleur secteur depuis 3 mois en Europe, les bancaires. On regarde aussi, on retrouve les retail, on retrouve les utilities. Tout ça me laisse penser qu'il se passe quelque chose. Peut-être qu'on ne, pour l'instant, qui n'est pas trop publicisé, qui n'est pas référencé.
Il y a peut-être des tendances longues, là,
voilà,
sur des nouveaux intérêts sectoriels de classes d'actifs qui sont en train de se mettre en place.
Voilà, des thématiques value,
ouais,
par exemple.
Bien sûr.
Donc, on le voit avec les matières premières et les bancaires.
Ah bah, les banques en Europe, mais enfin, nous, ça fait, même en 23, les banques ont déjà très bien fait, et c'est le meilleur secteur en zone euro depuis le début de l'année, hein.
Voilà, donc ça c'est une deuxième perspective, c'est la perspective des actifs et des secteurs. Alors, il y a une troisième perspective qui est assez intéressante, que j'ai regardée aujourd'hui. J'ai fait un peu de recherche sur les actions. Et j'ai regardé, en fait, parce que finalement, on en avait beaucoup parlé, des restrictions de ChatGPT, notamment.
Oui.
Sur les portefeuilles, oui. Comment construire des portefeuilles actions par rapport à des thématiques.
Moi, j'avais en tête que ChatGPT ne pouvait pas faire de recommandations d'investissement.
Alors, c'est vrai, mais en réalité, je ne l'ai pas vu de ce point de vue-là. Finalement, quand on lui demande des recommandations, à mon avis, il peut faire des recommandations. Évidemment, il ne va pas être complètement libre, on le sait, parce qu'en fait, il y a des... Enfin voilà, OpenAI veut éviter tout procès, donc parce que ce ne sont pas des conseillers financiers. Non. Mais il y a une autre perspective qui est plus intéressante, c'est finalement de lui donner un scénario. Voilà, vous donnez votre scénario, ça peut être tout, et de lui demander à partir de ce scénario. Et en fait, moi, j'ai construit ce qu'on appelle des modèles de langage adaptés qui sont un peu entraînés et qui répondent par des tableaux et qui donnent des rationnels à chaque choix. Et en fait, en lui disant un portefeuille inflation en Europe de valeur européenne et un portefeuille inflation de valeur américaine, là, il se mouille. Et ils donnent des portefeuilles.
La liste, je l'ai.
Et ce qui est intéressant...
Vous avez donné les listes. Bon, voilà. C'est illisible, parce que j'ai mal imprimé. Mais il y a une liste, il y a tout, le rationnel, le business de l'entreprise.
Voilà, c'est un générateur d'idées qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Et de manière générale, j'ai vu que quand on lui donne un scénario, par exemple, la victoire de Trump, une guerre économique avec la Chine... ou tout autre scénario que vous pouvez imaginer, eh bien, en fait, il sait assez bien, et il a des raisons, et c'est un générateur d'idées, de potentiel, raisonnement qui est intéressant, qui est pertinent. Alors, il fait quelques erreurs.
Vous l'avez fait avec la dernière version, là, de ChatGPT ?
Oui, avec le GPT-4o.
Ouais,
tout à fait.
Plus abouti.
Oui, plus abouti, plus rapide aussi, et d'autre part, qui sort les formats parfaitement, donc en fait, on peut parfaitement piloter le format. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui sort comme secteur. On ne va pas citer les valeurs, la totalité des valeurs, mais il y a plusieurs secteurs qui reviennent. Il y a un premier secteur, c'est la consommation. Aussi bien la consommation durable que la consommation discrétionnaire. Il y a des secteurs qui reviennent classiquement, qui sont des valeurs industrielles, finalement, qui peuvent répercuter leur prix. Ils considèrent que la pharma aussi
a
du pricing power. Et puis après, les valeurs de matières premières classiques, l'énergie, les utilities. Il y a des valeurs de utilities en plus des pétrolières. Et puis les grandes minières.
Ouais.
Donc, de ce point de vue-là, c'est assez intéressant de voir ça. Ça, c'est une autre perspective. Et c'est une perspective vraiment sur l'IA et à mon avis qui est nouvelle. Et puis il y a une dernière perspective, c'est de prendre du recul sur la macro finalement. Et de voir, est-ce qu'on n'est pas dans un environnement sous contraintes géopolitiques qui induisent des contraintes budgétaires très fortes pour financer les conflits, qui peuvent être des conflits économiques, des conflits régionaux, peut-être des conflits semi-globaux. On n'espère pas, mais c'est possible. Et donc, finalement, que ce financement induit des déficits budgétaires qui sont structurels et pas forcément maîtrisables. D'autre part, on est dans un monde... rajoutons à ces contraintes les contraintes sociales et sociétales qui sont liées à l'évolution, par exemple, liée à...
Vieillissement, démographie...
Voilà, l'intelligence artificielle, les remplacements, les stress sociaux que cela peut induire. Et donc, finalement, que l'État-providence n'est pas définitivement abandonné, on va dire, et
maîtrisé. Mais doit répondre à une demande infinie, aujourd'hui, de la part du corps social, du corps des entreprises, etc. Il y a une demande infinie pour l'action publique partout et en tout lieu.
Et que finalement, la maîtrise budgétaire, en fait, n'est plus tellement possible, n'est plus en ligne de mire. En fait, on a des déficits budgétaires.
On reboucle avec votre idée de départ, l'or, les métaux, le risque de débasement,
absolument,
etc.
Absolument. Et donc, finalement, l'idée, en prenant un peu de recul, au niveau macroéconomique et j'allais dire même au niveau géopolitique, on voit que ces contraintes induisent un déficit plus élevé, des déficits nécessairement plus élevés, entre 3 et 6%, et que finalement les relances monétaires qu'on a connues dans les années 2010 sont supplantées par des relances budgétaires permanentes. Et évidemment, cela induit plus d'inflation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une inflation comme dans les années 70, je ne le crois pas, mais ça veut dire qu'on a plus d'inflation. Ouais. Et qu'au finalement, on a un ancrage d'inflation plus élevé qu'auparavant.
2 était un plafond, peut-être que 2 est un plancher maintenant pour l'inflation.
C'est bien possible.
Et peut-être même un plancher un peu au-delà de 2, j'en sais rien.
Mais oui, voilà, c'est bien possible.
Peut-être
que maintenant l'ancrage est à 3,
ouais,
c'est bien possible. Ouais. Et donc cela induit finalement un environnement nouveau, et là j'en arrive aussi à une autre perspective, c'est la perspective de là où, qu'est-ce qu'il faut investir, où investir pour les investisseurs. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une décennie 2010 où c'était les actions. On voit que depuis 2022, ce n'est plus déjà les actions et les obligations, parce que les portefeuilles 50-50 ont pris quand même un coût important en termes de performance. Ouais. Et on voit aussi apparaître des nouvelles opportunités, des nouveaux acteurs, des acteurs qui étaient très anciens, mais qui avaient perdu de leur lustre, les hedge funds.
L'alternative.
L'alternative de manière générale. Ouais. Et on voit que peut-être l'alternative va réavoir le vent en poupe, tout simplement parce qu'il bénéficie de taux plus élevés, d'opportunités d'arbitrage plus importantes. On en a parlé, les matières premières, donc ils ont plus d'ouverture sur les actifs
qu'ils peuvent traiter.
Ouais, ouais. Ils ont moins de contraintes. Et donc peut-être que cette nouvelle, cette classe d'investisseurs qui était passée de mode va revenir sur le devant de la scène.
Hyper intéressant, on a fini, mais c'est vrai que le retour de la gestion alternative, j'aime beaucoup ce thème. Attention, derrière gestion alternative, on met beaucoup de choses, hein. C'est un vaste supermarché,
oui,
aussi.
Il faut sélectionner,
etc. Non, mais voilà, il y a plein de modèles, de stratégies différentes, etc.
On a parlé des tendances macroéconomiques, donc voilà,
il y a
fonds global macro,
l'arbitrage
d'action.
Bon, je donne juste, là, il nous reste 30 secondes. Donc le portefeuille ChatGPT pour l'Europe dans le cadre inflationniste, bon, c'est du grand classique, oui, vous avez dit de la conso, donc c'est Nestlé, Unilever, il y a des utilities de l'énergie, Iberdrola, Total Energy, de l'industrie, Siemens, consommation discrétionnaire, on trouve LVMH, Schneider Electric dans l'industrie, bien sûr, enfin voilà, après il y a plein d'autres boîtes, et puis aux US, oui, du grand classique aussi, hein, c'est les blue chips, quoi, Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Walmart, qui vient de publier des résultats incroyables, hein, je crois, ils font un travail incroyable, Walmart, sur le consommateur américain, avec des volumes qui reviennent, les consommateurs reviennent dans les magasins, c'est plus juste les ventes en ligne, c'est plus juste le discount, et donc Walmart d'ailleurs doit marquer un nouveau record en bourse aujourd'hui, je crois, avec une market cap à plus de 500 milliards de dollars. Voilà pour quelques exemples de ces portefeuilles dopés ou générés par l'intelligence artificielle en l'occurrence. Merci beaucoup Jean-Jacques.
Avec
Jean-Jacques Ohana, consultant indépendant et membre de la FinTech, membre du board de la FinTech AI for Alpha, qui était avec nous l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.